Chers auditeurs, notre émission de ce mois-ci comporte deux parties. Deux parties qui vous seront présentées dans le mois de mars. Notre invité, Daniel Prévost.
Du faire à l'être.
Bonjour, bienvenue à Du faire à l'être. Je suis votre animateur, Michel Boutotte.
Je suis Micheline Garneau, la co-animatrice.
Micheline, 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 comment vas-tu?
Moi, ça va très bien. Très bien. Je dirais plus très bien.
C'est comme un peu du déjà vu, chère Micheline. La dernière fois que je t'ai posé la question, tu as dit je dirais plus, je vais très bien. Il semble que tu ailles toujours bien.
Bon, si tu préfères, je peux dire que ça va pas bien.
Oh, si ça va bien, qui suis-je pour te contredire? C'est toi qui te sens.
Et je me sens bien.
Quoi de neuf, chère Micheline?
Il n'y a pas grand-chose de neuf hein, qu'à entendre parler de la pandémie.
Nous sommes déjà au mois de mars. Hein? Un autre mois, une autre époque.
Où serons-nous à la fin de mars?
On le verra bien. Tu sais, Micheline, il y a quelques mois de cela, j'avais invité Daniel Prévost à venir nous jaser sur ce balado. Et puis, nous avons fait un enregistrement. Et pour m'apercevoir au dernier moment, lorsque tout le monde était parti, que l'enregistrement n'avait pas eu lieu. Alors aujourd'hui, on se reprend et on espère que ça va fonctionner. Daniel, bonjour.
C'est de valeur parce qu'il était tellement bon.
C'est ce qu'on appelle mettre le couteau dans la plaie.
Mais il était tellement bon, mais peut-être qu'il va être meilleur.
Elle est très positive.
Ah oui, Micheline, c'est la sage de l'émission. Alors. Et Daniel Prévost.
Ça va bien. J'ai une journée extraordinaire aujourd'hui. Je commence avec vous. Donc, ça a commencé dans la prière à matin, ça commence avec vous. Un petit bec à ma conjointe. Puis après-midi, ça se termine à la paroisse où on est en train de finaliser un système de captation vidéo pour faire des enregistrements un peu comme vous le faites, de nos célébrations ou de témoignages où on a des projets dans l'air.
D'accord. Et écoute, la question que je pose à tout le monde, comment vis-tu ce confinement puis cette période de pandémie?
Je dirais, écoute, deux aspects. Il y a un aspect comme je m'ennuie tellement de mes proches puis de ma communauté puis des gens que j'aime. Puis hier, je recevais un courriel d'un paroissien qui me disait « Daniel, je prie pour toi puis j'ai hâte de te serrer dans mes bras, de t'embrasser. » Puis tu vois le genre.
Oui.
Puis de l'autre côté, ben, je suis en train de saisir le moment aussi. Il y a des opportunités dans cette pandémie-là de retourner à l'essentiel, de retourner à ce qu'on est vraiment au cœur. C'est cette démarche-là que je suis en train de faire puis qu'on essaye de faire vivre aussi à nos paroissiens.
Pour nos éditeurs, où as-tu les pieds? Que fais-tu? Qui es-tu en termes de faire, disons?
Alors, animateur de pastorale à la paroisse Saint-Jean-23, une toute petite paroisse à Saint-Hubert. On est une toute petite équipe aussi, une équipe de coordination avec Maurice Rainville, le curé, Frédéric Lemay, un agent bénévole, et moi-même, c'est tout. C'est tout.
D'accord. Est-ce que tu vis dans ce milieu-là aussi?
J'ai la chance de vivre dans ce milieu-là.
Ben moi, je ne savais pas que c'était Maurice Rainville qui était... est-ce que c'est les curés ou coordonnateurs? Un prêtre collaborateur?
Alors, il est curé.
Il est curé. Ah, en tout cas, tu es chanceux.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai beaucoup aimé Maurice Rainville.
Tu as connu, Michel?
Oui, j'ai connu à Saint-Basile.
Ben moi, j'ai eu la chance de travailler avec Maurice quelques années au Phare de Longueuil.
Oui.
Vous connaissez,
oui.
Hein? Alors, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis c'est là qu'on a fait, je dirais, un peu notre noviciat de la mission en périphérie. Fait que là, tous les deux, le Seigneur nous a ramassés dans une petite paroisse, puis ça parle de mission, je vous le dis. Hein?
Pour le bienfait des auditeurs, le Phare de Longueuil, je sais que la plupart d'entre nous connaissons, mais peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Est-ce que tu pourrais me dire un petit mot là-dessus?
Alors, imaginez une maison pour des jeunes, mais avec une mission un peu particulière. Ça s'adresse aux jeunes des universités et des cégeps. Et on leur fait vivre une expérience extrême auprès des itinérants, des prisonniers, des toxicomanes. Puis souvent, c'est dans un milieu chrétien. Alors, tu amènes ces jeunes-là en prison, le monderie avec les prisonniers. Et là, il y a des animations, mais souvent, ils se font évangéliser par ces gens-là qui ont rencontré Dieu dans une période extrême de leur vie, puis ils racontent un peu leur histoire d'amour.
Tu as mentionné que tu étais agent de pastoral. Moi, je sais que beaucoup de personnes de nos jours se posent la question à savoir qu'est-ce que c'est ça, un agent de pastoral, puis qu'est-ce que ça fait? Tu as mentionné aussi que tu étais dans une équipe de coordination. Alors, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais peut-être tu peux nous en parler. Qu'est-ce que c'est ça?
Un agent de pastoral, ça, c'est quelqu'un qui a tombé dans potion magique un jour. Non, je recommence ça. Il a tombé en amour avec l'amour. Mon histoire a vraiment commencé là. J'ai fait une rencontre avec Dieu qui a transformé ma vie. Puis après ça, je me suis dit, la seule chose que je veux faire, c'est donner ma vie à ce gars-là, travailler pour lui.
Comme je dis souvent, on va retourner à Adam et Ève. Quel âge avais-tu quand tu as connu cette histoire d'amour-là? D'abord, est-ce que tu veux nous parler de cette histoire d'amour-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Puis comment ça a évolué?
Très bien.
Je suis très curieuse de savoir.
Alors, imaginez un gars, là, je suis au début de la vingtaine. Fait que j'avais passé une enfance heureuse dans une famille chrétienne traditionnelle. Fait qu'on savait toutes les règles, puis toutes les lois, puis tout ça.
Vous alliez à l'église,
c'est ça? On allait à l'église, tu sais, puis on jeûnait le vendredi saint, puis on faisait le carême.
Vous amenait, là.
Il nous amenait. Mais pour te dire que je connaissais vraiment mon Père du ciel, non. Pas comme une personne, tu sais, vous avez peut-être déjà tombé en amour, là, tu sais, je veux pas rien révéler de vos vies.
Non,
là.
On dira rien, Micheline non plus.
Mais je te le dirai pas de toute façon.
Mais vous savez ce sentiment-là, hein, qu'on ressent que là, t'es sûr que t'es aimé de quelqu'un, puis t'aimes quelqu'un, là, au niveau de ton cœur, là, tu te palpites, t'as chaud, t'as frais, tu bégayes, là, tu sais. J'avais pas cette relation-là avec Dieu. C'était une relation cérébrale, on va dire. Et toute mon adolescence, je me cherchais. Qui j'étais. Puis j'avais un talent d'imitateur, fait que j'imitais toutes sortes de monde, mais j'étais jamais moi-même. Puis il y a 20 ans, je participe à une rencontre de jeunes, comme on était dans des réseaux chrétiens quand même, tu sais, catholiques. Je vais rencontrer un prêtre, puis ce prêtre-là, c'est Christian Beaulieu, un prêtre de feu. Il me semble que je n'avais pas rencontré souvent, pardon pour les autres, non, c'est parce que c'est moi qui n'en fréquentais pas assez. Oui. Alors, ce prêtre-là arrive, il y avait quelqu'un, il y avait une bonne animation, un orchestre dynamique de jeunes. On était, je ne sais pas, 100-150 jeunes. Il se met à parler de Dieu comme s'il me parlait de ma blonde. Il parlait comme un amoureux, on dirait qu'il venait de le rencontrer, puis qu'il venait de se parler, là, qu'il avait pris une bière ensemble ou je ne sais pas quoi. Hey, ce gars-là, il a capté mon attention pas à peu près. Là, je l'écoutais, tu sais, d'habitude... J'en ai entendu des sermons dans ma vie puis des homélies. Là. Lui, il avait une manière de parler de la parole de Dieu. Ça me jetait à terre. Alors, à un moment donné, il nous demande à tous les jeunes qui sont là, on va poser un geste. Faites juste fermer les yeux. On va demander au Seigneur de venir vous visiter. Bon, je ne sais même pas ce qu'il dit. Je ne me rappelle plus de sa prière. Mais je peux te dire qu'à ce moment-là, j'ai vécu une expérience spirituelle comme je n'avais jamais vécu de ma vie. Et j'ai eu 3 conversions pour une. Tant qu'à faire, le bon Dieu, il est généreux, notre bon Dieu. Hein? La première conversion, j'ai su que Dieu existait. C'était mon papa d'amour qui m'aimait, moi, personnellement. La deuxième conversion, hey, ça s'est passé dans 5 secondes. Hein? Je savais que j'allais trouver tout ce qu'il me fallait dans l'Église catholique, l'Église où j'avais été élevé. Puis la troisième conversion, c'était la mission. Dieu avait, déjà me disait, j'ai besoin de toi, je t'ai formé pour quelque chose que tu vas découvrir, mais j'ai besoin de toi, je vais t'envoyer. Puis là, dans ma tête, ça me disait vers les jeunes. Ça a été le début de mon histoire d'amour.
Tu me rappelles, c'était à quelles circonstances ce qui était arrivé avec le prêtre Christian Beaulieu? C'était
une espèce de rassemblement de jeunes, un style des JMJ avant le temps, on va dire. Là. Mes parents connaissaient ça. Tu sais, puis on avait été invité un groupe de jeunes avec des paroisses. Puis j'étais avec mes amis. Puis...
Te voilà, je vais dire, converti.
On peut dire
ça. Ah, on peut dire ça.
On peut dire ça.
Et puis, à partir de ça, qu'est-ce qui arrive? Tu as 20 ans. Bon, j'imagine que tu allais à l'école. J'imagine que tu avais des objectifs dans ta vie. J'imagine que tu avais une idée un petit peu de ce que tu voulais faire, en tout cas du moins, pour gagner ta vie. Hein?
Avant cette conversion-là, non. Je me cherchais, Michel, là. C'était... Ah, la vie avait comme pas de sens, pas de but. Et là, j'étudiais en animation et recherche culturelle. Fait que j'étais comme préparé à devenir un animateur, c'était clair et net, mais je le voyais pas dans ce temps-là. Et là, je voulais vraiment travailler pour Dieu, mais écoute, travailler pour Dieu, là, faut que tu deviennes un curé. Puis moi, ben, j'amène une femme que je n'étais pas question, je la lâchais.
À 20 ans?
À 20 ans.
À ce moment-là?
Ah, c'était ma blonde, puis c'était pas question que...
C'était la femme de ta vie.
C'était la femme de ma vie.
Ah oui, parce que ça l'est encore.
Ça l'est encore, mmh. Ça l'est encore mmh. Après.
Toujours, écoute, je devrais dire.
Comptez ça, 81... En 81, 2021, c'est 40 ans, ça?
Ans, oui.
On va fêter 40 ans, là.
Wow,
c'est beau, hein?
Mais félicitations.
Oui, félicitations pour elle, surtout, d'avoir enduré 40 ans.
Mais je n'ai pas osé le dire.
Ose. Alors, c'est ça, t'as 20 ans, t'as ta compagne, et puis tu te sens appelé à travailler pour Dieu. Alors, les qu'est-ce qui arrive?
Comment? Alors là... j'ai commencé à faire du bénévolat. Je me suis joint à un groupe de prières, tout ça. Ouais. Puis on s'y met à fréquenter les cafés chrétiens. J'aimais beaucoup le café chrétien Centre-Sud. Alors imagine, je voulais travailler, mais je voyais bien qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Hein, puis c'était animateur de pastoral. Puis c'était pas riche. Hein. Je me rappelle quand j'ai commencé, écoute, j'avais déjà un ou deux enfants. Puis là, je tombe à un salaire de...
Mais quand tu fais, tu as eu des enfants à quel âge? Sans être...
Assez jeune, ouais, oui. Ouais, okay. Je me suis marié, puis 3 ans après le mariage, on okay. avait commencé
vous êtes
notre famille.
À quel âge?
22 ans.
22 ans, OK. Puis vous avez déjà 2 ou 3 enfants.
À 25 ans, j'ai eu mon premier enfant.
Et tu travaillais dans quel domaine à ce moment-là?
Là, j'avais n'importe quoi.
Ah oui? Ah oui.
J'avais pas terminé mes études parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Fait que j'avais abandonné en plein milieu du parcours à l'université. Fait que j'étais allé travailler dans une organisation communautaire, là, des mouvements familiaux, de camps familiaux pour les personnes un peu démunies. Puis là aussi, je me suis fait jointo parce que le bon Dieu venait me rejoindre là-dedans parce qu'il y avait des délinquants. On recevait des délinquants dans ce camp-là, l'été. Puis là, ça a été le premier contact avec cette mission-là que je commençais à percevoir avec les jeunes. Puis là, c'était beau, délinquants-là qui arrivaient avec leur peine, leur passé, leur misère, mais aussi tout leur espoir. Tu sais, ça veut vivre, c'est fort la vie. Hein? Fait que là, je me souviens, on les faisait à manger, on les hébergeait. Puis là, il y a un jour, il y en a un qui vient nous voir, puis je m'en souviendrai tout le temps. Il parle à ma femme, puis à moi. Il dit, « Tu veux-tu être mon père? Tu veux-tu être ma mère? »
Wow!
Ça nous avait jeté à terre. Là, on avait entendu un cri de détresse de « on a besoin d'une famille, on a besoin de leaders qui nous aiment, de personnes signifiantes. » Ça a été comme les premiers contacts. J'ai perdu cet emploi-là, j'ai vu un paquet de petits emplois, j'ai été concierge, j'ai beaucoup de sympathie pour tous ceux qui font de l'entretien, puis... Il n'y a pas de sous-métier que mon père me disait. Après ça, des périodes de chômage, une demande d'aide sociale. Tu sais, ça allait bien. Moi, mon rêve, c'était de travailler pour Dieu. Puis là, tout ce que je voyais, c'était ma carrière professionnelle qui s'en allait dans le fond du baril. Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'était comme une préparation. Je voyais ça comme un petit peu d'humilité.
Daniel, je vais te dire quelque chose. Je suis... présentement une réflexion sur l'humilité, justement. Et je crois que dans la vie, souvent, c'est parce qu'on n'a pas le mot pour le dire. Mais mon Dieu, qu'il arrive des événements dans la vie pour que on puisse, si on savait quand on est plus jeune, que l'humilité peut nous aider aussi, mais on ne le sait pas. On en prend conscience avec le temps. Mais c'est quelque chose de grand et de beau.
Alors, tu vis des choses, Daniel, qui te ramènent, on va dire, sur le plancher des vaches.
Yes.
Et parce qu'il y a certainement eu cette expérience-là, d'humilité. Moi, je le dis en mes mots comme ça. Là, mais, et puis, qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là?
Alors, au moment où je pensais que tout était... Hey, là, je vous parle d'une période qui a duré 10 ans. Là. Entre cette... c'est pas magique, hein? Au moment où Dieu m'a rencontré puis qu'il m'a donné ce désir-là intense de le servir, il y a eu une période de 10 ans, j'appelle ça mon noviciat. Puis là, à la fin de cette 10 années-là, je faisais de la musique un peu partout, dans ma paroisse aussi. Et c'est mon curé de paroisse, un ancien chancelier, qui vient me voir et dit « Daniel, là, tu as été concierge, là, mais là, tu t'encrasses. Dieu veut que tu travailles pour lui. Il y a un poste qui est offert. » À telle paroisse, vas-y, je te signe ma lettre, je te signe une lettre de référence. Quand ça vient du chancelier, c'est pas pire.
Oui, c'est déjà quelque chose, oui.
Et comme de fait, j'ai été embauché dans une paroisse en 90.
Comme?
Animateur de pastorat jeunesse.
Et je pense que ce serait bon de le nommer. Qui était chancelier à ce moment-là, au diocèse?
C'est un peu fou, je me rappelle. Là. Mm-hmm. J'ai pas la mémoire des noms, c'est pas terrible.
Ben, écoute,
ça.
C'est pas grave.
Jacques Lebeuf.
Je m'en allais
Jacques
dire.
Lebeuf. Oui. Okay. Jacques Lebeuf.
Alors, tu as dans la trentaine, si je comprends bien, 10 ans.
Début de trentaine.
12 ans, 25 à 35, début de trentaine, oui. Et là, tu es engagé comme animateur de pastoral. Mais dans la même paroisse ou en quel endroit?
Alors, j'étais à Saint-François-de-Sales, à Longueuil. Et j'arrive là, puis moi là, j'ai un bagage d'animation missionnaire, on va dire, là, tu sais, là, avec les cafés chrétiens puis tout ça. Mais d'une paroisse, c'est un autre paire de manches. Hein.
Dans le fond, les cafés chrétiens, ces choses-là, je m'excuse de t'arrêter, mais c'est vraiment de la pastorale. Moi, à mon avis, c'est vraiment de la pastorale. Une pastorale qui... Il y a toute pastorale missionnaire, là, mais t'as raison de dire que c'est missionnaire.
Full pin, hein, tu sais, t'accueilles des gens comme ils sont dans la rue. Oui, c'est ça. T'accueilles les détresses comme ils arrivent. Puis là, le Seigneur te demande, regarde, moi je suis dans ce pauvre-là. Es-tu capable de me voir? Es-tu capable de dépasser ton dédain? Parce que des fois, écoute, je me souviens une journée à l'accueil Bonneau, il y a un itinérant qui rentre, puis il avait passé l'hiver dehors. Puis là, il rentre pour la première fois. Mettons que ça sent...
Ouais.
Sa présence se sentait.
Se faisait sentir, si on veut. Sans vouloir dénigrer la personne.
Exactement,
là,
exactement. Mais ça décrit une réalité que ces hommes-là, ces femmes-là vivent. Alors, je commence dans ma paroisse. La première semaine, le curé me présente un peu à des groupes de jeunes, puis tout ça. Puis il y a deux jeunes qui m'appellent, puis qui viennent me voir, puis qui disent... on veut te rencontrer. Correct. Je lui ai dit, on se verra vendredi. Mais entre-temps, il y a une funéraille qui s'annonce. Et la funéraille, bien, c'était un jeune qui s'est suicidé. Fait que mon premier jeune que je vais rencontrer, mon curé m'envoie, Père Lucas, il me dit, tu vas aller à la funéraille? Ben oui. Fait que le premier jeune que je rencontre, il est mort. Fait que ça a été une expérience pénible. Mais Dieu m'attendait là. Alors, la funéraille se déroule, tu vois, il y a une tristesse. C'est triste de voir un jeune en pleine force de vie, là.
C'est difficile à voir. C'est difficile à vivre. Hein? Même pour quelqu'un qu'on n'est pas... même si c'est pas dans notre famille ou proche.
J'ai trouvé ça très difficile. Alors, pendant la célébration, je priais pour... Il s'appelle Marc. Je priais pour Marc. Puis je me disais, pas de bon sens, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire face à tout ça? Au moment de la procession... À la fin de la célébration, le cercueil passe à mes côtés. Et j'ai eu envie comme de passer un contrat avec Marc. J'ai dit, Marc, toi, là, t'as souffert. Puis là, je pense que tu es un bras de Dieu. Veux-tu, on va travailler ensemble. Toi, tu vas être mon équipe du ciel. Puis moi, je vais essayer de faire ce que je peux sur la terre. Là. Mais on va travailler ensemble pour essayer... éviter le plus possible que des jeunes, au moins de notre communauté, souffrent tellement qu'ils ne voient plus d'horizon, qu'ils ne voient plus d'autres solutions que de s'en venir.
sais, je suis bien trop fragile. Par ton amour et ta tendresse, tu calmeras toutes mes détresses. Oh, oh, oh. Tu es mon père, j'ai tant besoin de ton amour. Tu es mon père, je m'abandonne à ton amour chaque jour. Mon cœur, papa, je te le donne. Entre tes mains, je m'abandonne. Tu es mon unique espérance. Contre ton cœur se trouve ma délivrance. Oh, 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 oh. Tu es mon père, j'ai tant besoin de ton amour. Tu es mon père, je m'abandonne à ton amour chaque jour.